RMC, la boîte à souvenirs.
Christophe Dugarry.
Salut à tous, je suis Christophe Dugarry, champion du monde 98, champion d'Europe 2000. J'ai joué à Bordeaux, à Marseille, au Milan AC, au FC Barcelone et même à Birmingham, j'ai envie de le dire et de le signaler, même si ça n'a pas été très très long. Durant 4 ans, j'ai été à la tête de mon émission sur RMC, Team Dugas. Vous m'avez peut-être adoré, peut-être détesté. En tout cas, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs et je vais vous livrer ma vérité.
RMC, la boîte à souvenirs.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un numéro exceptionnel de la boîte à souvenirs avec, vous l'avez évidemment reconnu, Christophe Dugarry. Salut Christophe.
Salut JC.
Merci d'accueillir la boîte à souvenirs chez toi, près de Bordeaux, avant de tirer ta révérence d'RMC. Durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler quel champion tu as été, quel homme tu es devenu, des grands moments, il y en a eu, des cicatrices. Il y en a eu aussi un petit peu, des surprises à prévoir dans cette émission. Ton boulot est très simple. Face à toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur. Au fil de notre discussion, tu vas tirer au sort des papiers dessus un mot, une date, un moment que nous allons évidemment nous remémorer. Avant de commencer, comment tu te sens, Christophe ?
Très bien.
Pas du tout stressé ?
Heureux d'être là. Non, stressé, non.
C'est pas ton genre ?
En général, pas trop.
C'est pas ton genre. Je t'invite à tirer le premier papier dans la boîte à souvenirs.
Alors, c'est toi qui les as écrits ?
Exactement.
Maldini in the pocket.
Ça te dit quelque chose ou pas ?
Bordeaux-Milan, j'imagine.
Bordeaux-Milan, Maldini in the pocket, c'est une phrase que tu as pu dire un jour. Bah, on va l'écouter justement avec Gigi Buffon. Tu faisais son interview et à un moment tu lui dis ça. C'est furtif, mais on l'entend.
Mais toi, tu avais fait un match incroyable. Et Milan t'a acheté.
Maldini.
Eh si.
Et je me rappelle de ce Bordeaux, je me souviens de lui. C'était une équipe incroyable.
Alors nous sommes le 19 mars 1996, quart de finale retour de la Coupe de l'UEFA. Bordeaux-Milan, défaite à l'aller 2-0 à San Siro. Nous sommes au Parc Lescure et il se passe ça.
Frappe de Zidane qui allume Monsieur Caca. Ouais, il est beau en pivot.
Dugarry.
Le but de Christophe Dugarry. Et voici 2-0. Le Milan AC est mené ici à Bordeaux. Ouh là là, Zidane
fini.
Qui va le
c'est
redonner à Dugarry dans la surface.
Allez.
Frappe et but. Oh, quel but. Super. Oh là là, quel but de Christophe Dugarry. 3-0 pour Bordeaux. Est-ce qu'il faut se pincer, Michel?
C'était Michel Platini, ouais. Donc au commentaire avec Philippe Bruet. Ce soir-là, tu t'étais mis Milan dans la poche ?
Oh, je sais pas si... J'étais pas tout seul, bien sûr. Après le match aller, pas dire qu'on craignait le pire, mais on y avait été vraiment en relâché. On avait envie de partager ce moment, de recevoir le grand Milan AC, qui était l'équipe la plus importante de l'époque. Donc on avait envie de faire une fête, même s'il y avait 99% de chances d'être éliminé. Je crois que 3 ou 4 heures avant le match, le stade était déjà plein. On voyait que les gens étaient venus pour fêter le moment. Voilà, c'était une chance de faire un quart de finale retour de Coupe UEFA à la maison. Il y a eu une atmosphère, il y a quelque chose qui s'est passé et pour moi ce jour-là tout a fonctionné, ces deux buts sans contrôle, en une touche de balle, l'arbitre qui dévie le ballon, je reprends du pied gauche, après un ballon qui arrive, je frappe du pied droit, ça trouve une lucarne. Il y a des soirs comme ça où tout se passe bien et c'était effectivement mon soir, même si il faut quand même le reconnaître que pour battre le grand Milan AC de cette époque-là, on a tous fait un très grand match.
On rappelle le grand Milan avec les Maldini, Costa Curta, De Sei, Baresi, Ouéa, Baggio, j'imagine que pour toi, ça a été ton explosion quelque part médiatique aussi.
Oui, ce match a changé ma vie et ma carrière, c'est certain. Aux yeux du football européen et du football italien, je commençais à exister. Même si ce match qui est au mois de mars, j'avais déjà signé un pré-contrat, je me souviens à l'époque, avec Naples. Pour pouvoir signer à Naples. Donc déjà, voilà, les yeux du football italien m'avaient déjà ausculté, et scruté. Et puis à ce match-là, et c'est vrai que ça me révèle au niveau européen, et puis même à Bordeaux, les gens, j'étais un espoir, j'étais un joueur talentueux, j'étais un joueur intéressant, mais il fallait aussi que je sois décisif, que j'amène quelque chose à mon club, à ma ville, et c'est vrai que ça a été pour moi un moment de partage inoubliable, c'est certain.
L'explosion d'un joueur atypique, on va revenir sur ce transfert, parce que ce ne sera pas à Naples, évidemment ce sera dans cette équipe de l'AC Milan. Tout d'abord, l'explosion, je le disais, de ce joueur atypique, et quelqu'un est très admiratif de ce joueur, tu le connais bien, c'est l'un de tes fils, il s'appelle Tom, on l'écoute.
Au-delà de me plaire, moi il me fascinait un peu, parce que voilà, moi j'adore les joueurs à très fort caractère, voilà, avec des qualités assez exceptionnelles, et que je me suis posé plusieurs fois la question, même avec lui et tout, d'essayer de retrouver un joueur qui avait un peu toutes ces caractéristiques-là qui existent aujourd'hui. Et c'est vrai que j'en vois pas beaucoup, même encore aujourd'hui je ne vois pas à qui je pourrais l'associer, quoi. Donc ouais, c'était vraiment un type de joueur qui me fascinait.
Il me fascine.
Je le sais.
Il te l'a dit en ces mots ?
Tu sais, moi, j'ai une relation avec... J'ai une relation très fusionnelle avec mes enfants. Et je sais que je suis un peu l'idole de mes enfants, surtout de mon grand, de mon fils. J'aurais aimé qu'il me voie jouer. Je sais que c'était... Ça m'aurait fait plaisir. J'aurais aimé qu'il adore le foot. C'est un fou de foot. Mon fils, son rêve absolu, c'est que je rachète les Girondins de Bordeaux comme si j'étais milliardaire pour pouvoir le faire. Et de travailler avec moi, il adore le foot, il adore les Girondins, il adore. Voilà, donc. Mais j'ai une relation tellement fusionnelle avec mes enfants que. Je sais qu'il a beaucoup d'admiration pour moi. Et voilà, j'essaie de faire de mon mieux en tant que papa, mais c'est bon, même si c'est pas toujours facile, mais tout ce qui touche mes enfants, ça me touche beaucoup. Ouais.
L'admiration du père, mais le fils est vraiment, il adore le joueur, il adore ce profil en plus. Alors il nous dit qu'il a aussi un petit peu le même caractère, donc c'est pour ça qu'il l'adore autant.
Oui, après mon caractère que j'avais sur le terrain, je l'ai aussi dans la vie. Voilà, je suis, je peux m'emporter vite, je redescends vite aussi, c'est l'avantage. Mais oui, on se ressemble, c'est certain. Après, j'ai travaillé beaucoup plus que lui, peut-être aussi avec un peu plus de talent aussi, mais je sens qu'il a envie de me ressembler. Voilà, je sens que je suis... j'essaie d'être le mieux possible et d'être le meilleur papa possible et voilà, on regarde des matchs ensemble, on regarde des trucs, il me donne son avis, c'est génial. Et j'aurais aimé avoir mon fils avant pour pouvoir justement qu'il puisse me voir jouer. Il m'a jamais vu jouer, il est en 98, moi j'ai arrêté en 2003, donc il avait 5 ans, il se souvient de rien. Voilà, bon, mais c'est vrai que tout ce qui touche mes enfants, c'est très compliqué.
98, donc pour la naissance de Tom, tu auras un autre fils un petit peu plus tard qui s'appelle Louis. On en reparlera de tes enfants, mais je t'invite à tirer un nouveau papier dans cette boîte à souvenirs. Christophe Dugarry sur RMC.
Le triangle bordelais.
Eh bien voilà, on reste à Bordeaux un petit peu avec ce triangle bordelais. C'est quoi le triangle bordelais ?
Lisa, Zizou et moi, sur le côté gauche.
Et pourtant, ce trio qui va marquer l'histoire du foot français a failli ne pas exister, car tu fais quelques bêtises quand tu es jeune stagiaire professionnel. Tu fais quelques bêtises ?
Oui, j'ai un accident de mobylette. C'est ça dont tu parles ?
Oui, on va écouter ton papa, Christian, qui s'en souvient.
Un jour, il était stagiaire au pro, et puis il a pris la mobylette et il est parti avec ses copains. Et puis, ça s'est pas trop bien fini, parce qu'il a fini sous un camion, quoi. Donc il a fini avec une fracture, je crois que c'est une fracture de la malléole ou fracture je ne sais pas quoi. Et à l'époque, il était déjà stagiaire pro, donc il s'est fait remonter les bretelles par le président et par surtout Didier Couécou. À l'époque, il était responsable de la formation et des Girondins. Moi aussi, bon, je l'ai rondé comme tout papa, parce que ça fait peur, quoi.
Le président, c'était Claude Bess, tu t'es fait remonter les bretelles ?
J'avais failli mourir, quoi. C'est sûr que... ça avait été, j'avais fini sous le camion, et un mètre de plus et il me roule dessus. Je m'étais cassé la clavicule gauche et le péroné ou malléole droite. Et je devais partir en stage avec les professionnels, avec Aimé Jacquet, quelques semaines après. Et j'arrive à l'entraînement en chaise roulante. Donc forcément, je me fais disputé par les dirigeants, par Aimé Jacquet, par toute la bande. Les scooters, c'est interdit ici. Mais enfin, bon, à l'époque, j'habitais en banlieue, entre guillemets, bordelaise. Et pour me déplacer, c'était le moyen que j'avais pour me rendre aux entraînements et tout ce qui va avec. Ouais, ça a été, j'ai failli ne pas faire ce trio.
Ouais. Ouais, tu as pris conscience quand même à ce moment-là qu'il fallait peut-être faire autre chose pour passer professionnel.
Je sais pas. Ça a été un choc. Oui, là, pour la première fois, je me suis dit... Je peux passer à côté. Oui, alors j'avais une chance incroyable qui s'offrait à moi de partir en stage à 16 ans avec les pros. C'était juste génial et j'avais gâché le truc. Ouais.
Bon, alors ce triangle bordelais va faire le bonheur évidemment des Girondins de Bordeaux. Mais il y a une question qu'on se pose quand même pas mal de fois. On te l'a déjà posée, tu as répondu, mais je voudrais que tu précises un peu ta pensée. À l'époque, on est en 1992, quand Zidane arrive à Bordeaux, t'es plus fort que lui ou pas?
Plus fort, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment plus fort, mais disons que j'étais aussi technique que lui et qu'il y avait beaucoup de choses que je savais faire, qu'il ne savait pas faire et vice versa. Mais techniquement, on se tirait la bourre sans aucun doute là-dessus. D'ailleurs, pour preuve, lorsqu'on était en sélection de jeunes ensemble, le coach nous disait qui joue la première mi-temps, qui joue la deuxième, tellement nos qualités se ressemblaient. Même si moi, c'était peut-être un petit peu plus, de par ma taille, un petit peu plus basé sur la vitesse et sur la puissance, et Zizou plus sur une façon de toucher le ballon, de danser autour des joueurs, cette façon de contrôler le ballon qui était quelque chose d'assez unique. Mais oui, j'avais autant, si ce n'est plus, autant de qualité que Zizou technique à cette époque-là. Oui.
En 92, c'est Roland Courbis qui est à la tête des Girondins de Bordeaux. On lui a posé la question, aussi fort ou pas ?
Sur l'habileté technique, et là, tu sais, l'expression dit il n'y a pas photo, ben là je dis il y a photo. Quand tu voyais le duo Zizou-Duga jouer au tennis-ballon en doublette, c'était même assez impressionnant. L'adresse, c'était quand même du très très haut niveau. La note, comme à la scolarité, elle est pas loin de 20. Hein. C'était une très très bonne note.
Mais on adorait ça avec Zizou, on adorait ça, les contrôles, on balançait des chandelles très très haut et comment tu contrôlais le ballon, on se mettait à 20-25 mètres l'un de l'autre et on passait des minutes et des minutes à faire des heures, je veux dire des minutes par jour, mais des heures et des heures à faire des transversales, comment contrôler le ballon, extérieur pied gauche, intérieur pied droit, enfin on passait des heures à ça et on adorait essayer de développer quelque chose techniquement, quelque chose qui pourrait nous aider et surtout te faire gagner du temps, parce que le contrôle il te fait gagner du temps. Et c'est la priorité, et c'est ça le plus difficile. Sur ton adversaire direct, quand tu es un joueur offensif, il faut avoir ça. Soit tu vas très très vite, j'allais déjà vite, mais soit tu vas très très vite, soit sur le contrôle tu gagnes du temps.
Alors aussi technique que Zidane, explique-moi pourquoi autour de toi il y a toujours eu quand même un doute, un point d'interrogation.
Je sais pas. Mais qu'est-ce que t'appelles un point d'interrogation, par rapport à quoi ? Par rapport au fait que j'ai dit ça ou par rapport
sur justement ta carrière de joueur ? On va écouter Alain Giresse, comme ça il va peut-être préciser ma pensée. Il est dans le staff, il est directeur sportif des Girondins de Bordeaux à la fin des années 80. Mmh. Et évidemment, il t'a connu, Mino.
Pour avoir connu beaucoup de joueurs, en termes de talent pur, il avait vraiment... C'était le joueur doué par excellence. Mais la question était toujours présente. Le point d'interrogation, il était toujours là. Il était toujours là de se dire oui, mais...
Oui, mais après, tu sais, Pierrot Labatte, c'est peut-être lui qui a le mieux résumé les choses, il me disait, Duga, toi, tu peux nous faire gagner un match comme tu peux nous le faire perdre. Et c'est vrai que c'était un peu ça, parce que ça manquait de consistance, de régularité. Voilà, il fallait montrer autre chose, prouver autre chose. Et qui est cette interrogation, je la comprends, je l'ai eu moi aussi. Tu sais, moi, je ne crois pas avoir beaucoup de regrets, si ce n'est celui d'avoir signé à Barcelone, où je pense que c'était un mauvais choix. J'aurais aimé faire plus pour savoir jusqu'à où je pouvais aller. C'est peut-être ça le seul manque. Personne ne peut savoir dire je suis aussi fort que Zizou, enfin j'étais aussi fort que Zizou, donc j'aurais pu faire la carrière de Zizou. Non, ça ne se résume pas à ça, c'est bien plus compliqué que ça. À un moment, j'avais autant de qualité que Zizou, mais après, il y a tellement d'autres choses qui font que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas, donc ça veut pas dire grand-chose, cette phrase. Mais j'aurais aimé savoir, en me donnant plus, en faisant plus, en étant plus professionnel, jusqu'à où j'aurais pu aller. Voilà, c'est juste ça, parce que des fois, tu sais, t'as envie de te mesurer en tant qu'homme, en tant que père aussi, quand tu grandis, quand tu vieillis. Voilà, qu'est-ce que j'aurais pu, avec ce que m'a donné le bon Dieu et le travail, le peu de travail que j'ai fourni, si j'en avais fait plus, jusqu'où j'aurais pu aller.
T'as une réponse à ça ?
Ben non, parce que je ne le saurais pas. Alors, on a envie de dire, oui, avec le talent qu'il avait, il aurait dû aller très très haut, mais ça ne marche pas toujours comme ça. Il y a plein de choses qui se passent entre. Et qui, un point d'interrogation, il y aura toujours. Mais je fais partie des joueurs, je fais partie des joueurs à la Depaille, à la Ben Arfa, à la Balotelli. Souvent, je les critique beaucoup parce que je sais exactement ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font et les regrets qu'ils auront. Parce que peut-être que j'ai les mêmes. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage.
Dans ce triangle bordelais, il y a le duo. On en a assez parlé, c'est vrai, c'est Dugas-Zizou. Pourquoi vous êtes amis ? Parce que quand on vous regarde, on se dit que tout vous oppose.
On est différents, ça c'est sûr. Je sais pas, je crois que j'aurais aimé être un peu comme lui et lui aurait aimé être un peu comme moi. C'est-à-dire moi, par moments, pas toujours la ramener et parler moins fort. Parce que c'est bien d'écouter. Et quand tu parles beaucoup et fort, les gens finissent par plus t'écouter. Donc c'est bien d'écouter les autres. Et si tu veux te faire entendre, c'est parfois bien d'être un peu plus calme et réfléchi. Mais bon, c'est pas moi. Et lui aurait aimé peut-être être un peu plus extravagant, un petit peu plus foufou comme moi je l'étais. On est différents, mais par contre, on a le même humour, on rigole aux mêmes choses. On a le même sens de la famille aussi. Voilà.
Est-ce qu'à un moment donné, cette amitié a été écornée quand on se souvient de l'épisode équipe de France où on se dit Zidane, il ramène du gars. T'en as beaucoup parlé, donc c'est pas forcément là-dessus. Mais est-ce que cette amitié a été touchée à un moment donné ?
Non, jamais. Jamais. Mais moi, ça me faisait beaucoup de peine. Alors déjà pour lui, parce que ça sous-entendait que lui, c'était un manipulateur, un mec un peu qui magouille, qui un politicien, qui est là pour faire jouer ses copes. Donc déjà, ça me gênait pour lui parce que je sais que c'est un garçon profondément honnête. Et ça me gênait pour moi parce que je me disais, mais putain, mon pote, ça va devenir être un défaut d'avoir un copain, quoi, presque. Et je me disais, mais au bout d'un moment, il faut que j'arrête de décompose la question, parce que beaucoup de gens m'ont parlé, il faut que je dise presque, bon, ben, on n'est plus copains, arrêtez, laissez-moi tranquille avec ça, quoi. Et puis je me suis dit, après tout, si les gens sont cons et les gens sont jaloux et machin, je dis tant pis pour eux, c'est mon pote, c'est comme ça, on fera avec. Et puis sincèrement, ça ne nous a jamais posé aucun problème, ni à lui, ni à moi. Donc c'était bien ça qui compte. Tu ne fais pas les choses pour faire plaisir aux gens. Si les gens ont envie, et c'est une, je peux dire une excuse, mais c'est une raison pour me critiquer ou pour critiquer Zizou, ben écoute, je les laisse avec leur conscience. Et puis, dans l'absolu, c'est pas très grave.
Christophe Dugarry dans la boîte à souvenirs sur RMC. Nouveau papier dans cette boîte à souvenirs pour Christophe.
22 août 98.
Cette date t'a marqué ou pas ?
22 août 98.
Troisième journée du championnat de France.
Ah,
la première division. Marseille-Montpellier, 4-0 à la pause. Roland Courbis, l'entraîneur, encore une fois, se dit que ça serait bien quand même de faire rentrer Dugas. Et il va se passer ça.
Au centre de Dugarry, la tête est là ! Attention à ce coup franc de Pires ! En 2 minutes, la présence de Christophe Dugarry pour venir dévier.
Tout à l'heure, il subissait, mais il ne se désunissait pas.
C'est hallucinant, Laurent Blanc qui est passé tout près avec ses têtes face à Martigny. C'est...
Bon, il y avait du bruit, hein, forcément, au Vélodrome. Ouais. Marseille va s'imposer 5-4, tout le monde le sait. Doublé, passe décisive de Dugas. Pourquoi tu débutes sur le banc ?
Déjà, je sors de la Coupe du Monde où j'ai été blessé, je m'étais claqué face à l'Arabie Saoudite. Donc voilà, donc je pense que je ne suis pas à 100%. Et puis Roland est toujours dans son idée de faire des turnovers. J'avais dû jouer les 2 matchs précédents, donc celui-ci, je me repose. Voilà. Après, tu sais, cette année pour moi restera fera partie de mes meilleures années. J'ai adoré cette année à Marseille avec les joueurs. Il y avait une telle ambiance entre nous, symbiose. On jouait aux cartes, on jouait à la pétanque, on bouffait pratiquement tous les midis ensemble. On avait un super groupe, une super équipe. Roland a été quelqu'un de très 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 important dans ma carrière. Ça fait partie de mes regrets peut-être un peu, Roland aussi, de qu'il ne m'ait pas compris. Et que je ne l'ai pas compris, et qu'on n'ait pas réussi. Même s'il a été quelqu'un de très important, je pense que on s'est souvent accroché. Et lui a eu souvent des doutes sur moi. Moi, j'en ai eu beaucoup sur lui. C'est-à-dire, quand tu dis des doutes sur moi, je pense qu'il a rapidement pensé que le foot, j'en avais rien à foutre, et que je n'étais pas suffisamment appliqué, concentré, concerné, et qu'à un moment ou un autre, il ne pouvait pas me faire confiance. Et moi, j'en ai aussi un peu souffert parce que j'avais beaucoup d'admiration pour Roland. J'en ai toujours, bien sûr, mais quand je l'avais comme entraîneur, j'adorais sa façon de coacher, j'adorais comment il était. J'ai trouvé que c'était un super coach. Et j'ai pas réussi à... Et moi, j'ai perdu forcément confiance en lui. J'ai perdu confiance aussi, puisqu'il avait plus confiance en moi. Donc, j'ai aussi perdu un peu confiance quand il me faisait pas jouer, en ses explications. Voilà, donc c'est... Mais j'aurais aimé qu'on puisse être... qu'on puisse être en connexion. On l'a jamais été avec Roland. Je crois sincèrement, ou très peu. Voilà. Ou très peu. Il a toujours eu des doutes sur moi. Moi, j'ai toujours eu des doutes sur ses explications quand il ne me faisait pas jouer. Il y avait une incompréhension. Mais ça m'a manqué. Sincèrement, ça m'a manqué parce que Roland, j'ai beaucoup, beaucoup aussi d'admiration pour Roland. Et je pense que c'était un super coach. Et je pense sincèrement qu'il aurait pu m'amener très haut. Il aurait pu m'amener très haut, je pense.
Et c'est lui qui te fait venir 6 mois plus tôt à l'Olympique de Marseille, ouais. Alors que tu es un petit peu en perdition à Barcelone et que ça se passe mal. Ouais. Il te fait venir. Ce fameux match, il te met donc sur le banc. Et c'est vrai, il l'a rappelé. Et il le dit aussi dans un souci de turnover, parce que vous aviez une grosse équipe. La preuve, vous allez jouer jusqu'au bout le titre de champion de France que vous allez perdre finalement face à Bordeaux. Mais il y a une autre explication. C'est qu'à un moment donné, Marseille reçoit un appel de la Juve. Et Roland, il a peut-être envie que tu partes à la Juventus. On va l'écouter sur cet épisode.
Robert Ledreyfus me dit, tiens, j'ai eu un coup de fil de la Juve. En ce qui concerne Christophe Dugarry, quand je lui en parle, je pense qu'il va être très content, très, très fier. Et là, non, j'ai pas cette réaction, j'ai une grimace. Là, ça va, je suis bien là. Et là, je suis surpris. Mais entre être surpris et déçu, il y a quand même un monde. J'ai entendu qu'il m'en voulait, mais il m'en voulait de quoi? Je lui ai pas dit qu'il allait signer dans un club de deuxième division. Hein. Donc, c'est la Juve. Je pense que ça, ce sont des bonnes nouvelles. Et même si tu n'as pas envie d'y aller, d'être demandé par la Juve, c'est un honneur.
Christophe ?
Ouais. Ça ne s'est pas passé totalement comme ça. Ouais. Non mais déjà, je sors de Milan, je sors du Barça.
Tu veux pas te remettre dedans.
J'ai pas envie de repartir là-dedans. J'ai Zizou au téléphone qui me dit, écoute, chez nous c'est le bazar, et c'est vrai qu'à l'époque c'est le bazar. Lippi, c'est pas sûr qu'il reste, il va peut-être se faire virer. Zizou, il me dit, je vais partir, moi, dans 6 mois, je vais partir. Enfin voilà, c'est le bordel à la Juve, je me vois pas repartir là-bas. Je suis bien à Marseille, je viens d'avoir mon premier garçon, je viens d'avoir Tom, qui est né au mois d'octobre. J'ai pas envie de me barrer, je suis hyper bien à Marseille. Voilà, et Roland veut que je parte. Voilà, Roland veut que je parte. D'ailleurs, il me dit à l'époque, ton remplaçant, il est déjà là. Et si tu pars pas, ben, tu joueras pas. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose que de me dire, bon, ben, la Juve, est-ce que tu veux y aller ou pas? Et voilà, et je lui dis, ben, je veux pas y aller, et j'irai pas. Et non, je veux pas, je le sens pas, j'ai pas envie de repartir en Italie, j'ai pas envie de repartir. Là, je suis bien, je suis enfin posé, je suis. Voilà. Et même là, tu vois, c'est une incompréhension aussi. C'est-à-dire que, en gros, ça veut dire, non mais Roland, je suis bien et c'est pas ce que j'ai envie d'entendre aussi. Voilà, j'ai envie d'entendre, quand je lui dis, ben non mais Roland, je veux rester, machin, ça, je reste, la Juve, le grand Juve, ça, je veux pas. J'ai envie qu'il soit content et qu'il soit fier et qu'il comprenne que je suis investi, que je suis dedans. Et à l'arrivée, on se dispute. Moi, je le prends mal parce qu'il comprend pas. Lui le prend mal parce qu'il veut que je parte. Et puis dans sa tête, comme je suis un joueur qui s'en fiche un peu de tout, eh bien, je veux voir partir à la Juve. Bon, voilà, il y a encore une nouvelle fois une incompréhension. Et ouais, dommage.
Autre papier dans la boîte à souvenirs. Avec Christophe Dugarry sur RMC, nous refaisons sa carrière, les derniers jours d'ailleurs de Christophe Dugarry sur RMC. Il va tirer sa révérence, on en reparlera. Autre papier avec toi, Christophe.
Bermuda, chemise ouverte. Qu'est-ce que c'est ça ?
T'as une idée ou pas ?
Pas du tout. Bermuda, chemise ouverte. Non.
Nous sommes en 2006. Francfort. Tu fais tes grands débuts de commentateur durant la Coupe du Monde en Allemagne. M6 veut prendre à l'époque Robert Pires. En tout cas, M6 veut absolument un champion du monde. Il cible Robert Pires. Et Christophe Josse, le commentateur, lui, il veut absolument que ce soit toi. Les patrons d'M6 sont extrêmement sceptiques.
Ah.
Robert Pires va décliner. Ce sera toi. Ton premier match à Francfort. Tu as rendez-vous dans le hall de l'hôtel. Et c'est Christophe Josse qui raconte la suite.
On se donne rendez-vous à la réception de l'hôtel et pour la première, à M6, Coupe du Monde, etc. Il y avait les dirigeants du service des sports notamment, mais la direction aussi d'M6 qui était présent. Et Christophe sort Bermuda, chemise ouverte et des tongs. Le touriste, quoi. Donc je le vois sortir comme ça. Donc moi j'ai un petit sourire en coin et je vois le visage blême de certains dirigeants qui se disent, mais il nous a planté, Josse. Premier match, tu dis l'affiche improbable, et là, il y a eu tout de suite de la réussite, et tout de suite du savoir-faire, et puis tout de suite, la verve du gars, enfin, ce qu'on connaît, ce qui fait sa personnalité, il avait du talent déjà à l'antenne dès le premier match.
On va revenir sur le talent, évidemment, de commentateur, mais
je m'en souviens pas du tout, et je savais pas que c'était Christophe qui avait insisté pour que ce soit à moi et tout ça.
Lui, il croyait. D'autres n'y croyaient pas, mais lui, il croyait. Ben,
même moi, j'y croyais pas. Ouais, ça a été une surprise pour moi. J'ai une carrière où certains m'aimaient, beaucoup m'aimaient pas. C'est pas facile pour une chaîne de me faire confiance pour aller commenter des matchs. Mon image est moyenne, on va dire. Donc c'est une surprise, ça se passe hyper bien, mais je dois aussi beaucoup à Christophe Josse. Sans cette première expérience qui a tout déclenché et qui m'a donné le goût, si c'est à moi, c'était mal passé, je n'aurais peut-être plus jamais recommandé. Là, ça s'est tellement bien passé avec Christophe Josse, avec les dirigeants d'M6 et tout ça, que j'y ai resté, j'ai pris goût.
T'as l'impression de dégager cette image de mec dilettante à la cool ?
Je l'ai, mais je le suis. Je le suis, je suis bien comme ça. Je ne me voyais pas, par exemple, aller commenter un match en étant serré, avec costard-cravate. Je ne suis pas là-dedans. Je n'ai jamais été là-dedans. Je ne suis pas dans le paraître, je ne suis pas dans l'image, je ne suis pas dans l'ego. Je n'ai pas d'ego, je ne suis pas... On a toujours pensé que, tu vois, à l'époque, j'avais les cheveux longs et la barbe, on a toujours l'impression que je jouais un rôle. Non, je gardais les cheveux longs parce que je perdais mes cheveux donc très rapidement, donc j'essayais de camoufler. Et la barbe, j'avais graissé un peu la barbe parce que chaque fois que je me rasais, j'avais des petits boutons. Donc j'avais pas à me trimballer avec des boutons plein la gueule. Donc, c'était le truc le plus pratique, le plus simple. Il n'y avait pas de look, il n'y avait pas de truc recherché. Il y avait pas... Alors pendant un moment, j'ai eu ma période où j'ai voulu faire comme les autres, ça m'a vite gonflé. D'avoir des fringues, acheter des fringues, du Versace, des machins, c'est... Bon, ça m'a vite saoulé. Non, j'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être bien dans ma tête, bien dans ma peau, bien avec les gens que j'aime. Pour moi, c'était pas important, quoi. C'était pas important d'aller envoyer quelque chose. Je suis pas rentré dans l'idée que c'était de la com, que c'était une image, que c'était ci, que t'es là. Je m'en fiche, quoi. C'est pas ça qui est important.
Christophe Dugarry, du gars dans la boîte à souvenirs, avec un autre papier pour refaire ta carrière, ton après-carrière aussi, qui a été forcément une réussite.
Alors, du gâchis.
Ah. Le dossier.
Ouais.
Du gâchis.
Ouais.
C'est quoi ce surnom ? Tu en penses quoi ?
J'en pense rien. Faut l'accepter. Non, mais ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir, mais après, c'est sorti de Marseille quand il y a eu une période un peu difficile. Du gars qui rit, du gars chi, c'est du gâchis. On l'a tous fait, Ravanelli, c'était Ravioli. Voilà. C'est comme ça. Après, il y a du gâchis et du gâchis. C'est-à-dire qu'il y a une façon... de le dire dans un stade, voilà, et il y a une façon de le balancer dans la rue ou en. Voilà. Dans un stade, je m'en fiche. Voilà. Dans la rue, je me laisse pas faire.
Et ça t'est arrivé souvent ?
Oui ! Ah ben, j'ai des bourre-pifs, j'en ai mis, ouais. Ah ben oui, oui. Non mais oui. Voilà. Et dès que tu te retournes, dès que tu montres les yeux et dès que tu le mets, machin. Voilà, c'est devenu une espèce de jeu de mode. C'est. Voilà, moi, je me laisse pas faire. Je me laisserai jamais faire. Voilà, moi je respecte tout le monde, ben, j'essaye, et voilà, les gens qui se sont servis de ça, bon, tu sais, le foot, ça rend les mecs, ça a l'air un peu parfois bizarre. Mais non, mais ça, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, mais ça me, je m'en fiche. Sincèrement, je m'en fiche.
Ton papa Christian, qui tient avec ta maman un bar PMU à Lormont, reçoit des
à Salbeuf, exactement. À Salbeuf, le bar.
Très bien. Reçoivent tous les deux des appels anonymes et se font insulter. On va écouter Christian, ton papa.
Ah, oh, très mal, de manière très injuste. Très injuste, les critiques, je parle, tout est injuste. La sélection pour la Coupe du Monde, c'est un choix de sélectionneur, c'était le choix de Méjaquet. C'était des périodes difficiles pour lui, difficiles pour nous. Difficiles pour nous, surtout ça se passe de manière anonyme, chaque fois, c'est ce qui fait le plus de mal. Bon, ça, c'est, on a passé une période très, très, très dure, et c'est vrai que la Coupe du Monde, le premier but, ça. Ça a fait du bien à Christophe et ça nous a fait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien à nous.
C'est pour la famille que c'est le plus dur dans ces cas-là ?
Bah oui. Bah oui. Après, tu sais, les critiques, les gens... J'ai jamais... J'ai été beaucoup critiqué dans les stades. Jamais j'ai un mec qui est venu me voir et qui m'a dit « Voilà, Dugas, t'es un con, Dugas, t'es une pipe. » Jamais. Alors s'il me dit ça, je lui mets un coup de tête. Mais au moins, j'aurais un peu plus de respect. C'est toujours dans, tu vois, c'est toujours dans l'anonymat, c'est toujours les réseaux sociaux.
Si t'as quelque chose à dire,
viens dire. Voilà, il n'y a pas de problème, t'as le droit de ne pas m'aimer et t'as bien raison. Même moi, des fois, je me déteste. Voilà, donc je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, les réseaux sociaux, j'y suis pas. Je ne serai jamais sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas en recherche de ça, je m'en fiche des amis qu'on m'aime, je m'en fiche de ça. J'ai appris à... Ce qui compte, c'est que les gens que je connaisse, voilà, que je rencontre, avec qui je... Même que je peux rencontrer 20 minutes, une demi-heure, voilà, et m'apprécier et passer un bon moment. Après, les autres, je m'en fiche totalement.
Pierrot Labatte, qui a beaucoup compté pour toi, formateur sûr. Historique des Girondins de Bordeaux.
Ça, c'est sûr.
Justement, sur ce surnom du gâchis, comment lui, c'est un peu comme un deuxième papa, comment lui, il l'a ressenti?
Mais bien entendu que ça m'a rendu fou, ça a failli me faire virer des Girondins. Mais bien entendu que ça m'a rendu fou. Parce qu'il n'était pas entouré, parce que les gens voulaient qu'ils fassent ce qu'eux auraient voulu qu'ils fassent. Certains entraîneurs leur demandaient de jouer comme ils voulaient. Alors que Christophe aurait voulu jouer, lui, comme il voulait. Voilà, et quand il était à Marseille ou quand il était avec les supporters, moi je suis allé trouver les supporters. Je lui ai dit, mais arrêtez, ne pas, laissez-le, au contraire, aidez-le à ce que ça aille. Mais il était impulsif. Bon, mais chacun a son tempérament.
Les entraîneurs, les supporters, les médias, personne ne comprenait véritablement qui était Christophe Dugarry.
Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont essayé de comprendre. Voilà. Mais après, je leur en veux pas. Ils ont autre chose à faire. Ils n'ont pas à penser au cas Dugarry. Voilà, Dugarry et son talent et ses cheveux longs, ils se débrouillent. C'est à moi de montrer. Et c'est trop facile de dire que c'est la faute des autres. Le seul et unique responsable de tout ça, c'est moi. Et c'est pas. Mais c'est vrai que par moment, tu as besoin d'un peu de compréhension. C'est pour ça que j'ai envie aussi que le football aujourd'hui revienne un peu plus dans l'humain. Aujourd'hui, les footballeurs, on les prend pour des mercenaires parce qu'on les traite comme des mercenaires. Au bout d'un moment, on n'est pas assez dans l'humain. Il faut que le football revienne aux footballeurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des anciens. Je suis candidat à rien, je te le dis, je te le redis, tu le sais, je vais partir jouer au golf, faire le tour du monde. Voilà, je suis candidat à rien. Mais punaise, quand les joueurs, c'est pas facile, ils sont de plus en plus jeunes. On leur demande de plus en plus de choses, ils gagnent de plus en plus d'argent. Et c'est raison de plus où il faut de plus en plus les accompagner, ils ont un environnement de plus en plus délicat aussi, il faut des gens du foot, des anciens joueurs, j'espère que là Juninho qui explique qu'aujourd'hui il veut que le mental des joueurs change, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils les accompagnent, les rassurer, c'est important d'être rassuré, c'est important d'être, moi il y a des gens qui ont compté pour moi, Pierrot Labatte a été très important pour moi dans un moment où je doutais sur ma carrière, est-ce que je vais y arriver? J'étais jeune, j'avais 15 ans, 16 ans. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Est-ce que je fais ce qu'il faut? On se pose un milliard de questions. Quand t'as 17, 18, 19, 20 ans, un milliard de questions. Ta première fiancée, ta première cuite, ton premier ci, ton premier là. T'as la famille, qu'est-ce qu'on te demande dans ta famille? T'es sollicité parce que ta famille a pas d'argent ou des oncles, des cousins. Il y a plein de choses qui font que. Et il faut être là près des joueurs et c'est pas toujours facile. Et Pierrot a été très important pour moi. Très important pour moi. Et des fois, c'est vrai que. Les clubs n'ont pas toujours le temps, les entraîneurs n'ont pas toujours le temps, les dirigeants n'ont pas toujours le temps, mais il faut être à côté des joueurs, c'est important.
Pierrot Labat t'a compris et Aimé Jacquet. C'est peut-être l'autre homme de ta carrière qui a su parfaitement te cerner. Ouais. Quand il te parlait, tu te sentais revivre.
Ouais. C'est les deux qui savaient trouver les mots, qui savaient me rendre meilleur, qui savaient me parler. Ouais, qui savaient me parler. Avec Roland Courbis, c'est les trois personnages qui ont le plus compté dans ma vie de footballeur, certainement. Ouais.
Autre papier avec Dugas, Christophe Dugarry dans la boîte à souvenirs pour ce numéro exceptionnel de cette émission, la boîte à souvenirs sur RMC.
Team Dugas. Oh.
Team Dugas. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors depuis septembre 2016, tu animes Team Dugas. Tu as donc délaissé le commentaire, on en a parlé il y a quelques instants. Animer une émission, c'est totalement différent. Pourquoi tu t'es embarqué là-dedans?
Parce que c'est François Pesanti qui a été excellent et qui a su me convaincre. Qui a su me convaincre. Sincèrement, ça faisait plusieurs fois qu'il me sollicitait ou que j'étais sollicité pour faire de la radio. J'étais très bien à Canal, je voulais rester à Canal, donc voilà. J'adorais les gens de Canal, les journalistes, tout ce qui se passait, les relations avec Cyril Lillet, avec tout était super. Dominique Armand, Matou, enfin tous les mecs de Canal, j'adorais. Et ça a commencé à tourner à Canal avec Monsieur Bolloré qui est arrivé, Thierry Schellmann. Donc plus du tout la même façon de voir les choses, le plaisir, la joie, les sourires, le travail. Plus du tout la même chose. Alors moi, quand c'est plus comme ça,
au revoir.
Voilà, moi, rideau direct. Moi, je quitte mes enfants le week-end pour m'amuser, pour passer des bons moments, pour être avec des gens que j'aime. Si de suite on n'est plus dans cet esprit de convivialité, ça m'intéresse plus du tout. Donc rideau et voilà. Et François vient me voir. On se voit à Paris. Après, vient me voir à Bordeaux. Et il arrive à me convaincre. Bon, je te cache pas qu'il m'a pas tout dit. Autrement, j'aurais pas signé.
Comme quoi.
Non mais il m'a tracé un tableau idyllique. C'est sympa, mais c'est compliqué, c'est difficile de faire une émission de radio. Et encore, je devais faire beaucoup plus de choses que ça. Normalement, je devais faire le dimanche sur SFR, je participais à une émission. Le lundi soir, je devais avoir une émission à moi sur SFR à la télé, plus la radio lundi, mardi, mercredi, jeudi. J'avais deux jours de repos vendredi, samedi, mais ce qu'on te dit pas, c'est que le vendredi, samedi, et surtout le samedi, t'as tous les matchs à te taper, donc c'est pas vraiment un jour de repos. Le dimanche où t'as une émission, t'as tous les matchs à te taper le week-end, enfin, t'as des matchs tout le temps, donc soit tu travailles, soit tu regardes les matchs, enfin,
ça convient pas à Dugas.
Non, mais tu t'arrêtes jamais. Et puis, comme j'ai mon côté patient, si je veux être pertinent dans mes commentaires, dans mes analyses,
il faut regarder
les matchs. Ouais. Moi, j'ai toujours regardé les matchs. Toujours, toujours, toujours. On peut pas me dire, ah non, mais tu l'as pas vu le match, tu l'as pas si, tu l'as pas. Quand je parle d'un match, c'est que je l'ai vu. Ou alors je bricole deux trucs, je ne l'ai pas vu, mais tu vois vite que je ne l'ai pas vu. Et je ne vais pas rentrer dans. Je vais pas développer une pensée, alors je ne l'ai pas vu. Non, j'esbrouve pas. Mais ça a été dur, RMC, sincèrement. Je rentrais à la maison les premières semaines. Je me dis, mais comment je vais faire pour aller au bout des 4 ans? Déjà, je bégayais, j'en pouvais plus, j'avais des auréoles sous les bras. J'avais l'impression d'être passé dans une machine à laver. En plus, avec ce casque que je déteste, t'as l'impression de
d'être enfermé.
Ouais, d'être enfermé dans le truc. Les auditeurs, Eric Dimeco, qui connaissait parfaitement la machine, qui m'attaquait, qui machin, qui c'est là. Et moi, je me sentais agressé, tu vois, je me sentais. Et je répondais mal et ça partait en saucisse. Ça partait. Voilà, alors c'était bien pour la radio, mais moi, ça ne me convenait absolument pas et ça a été dur. Heureusement que j'ai eu Antoine et Jean-Louis. Sans Antoine et Jean-Louis, même Antoine, ça a été compliqué avec Antoine. C'était très,
Antoine Varnier, le réalisateur de l'émission, celui qui te parle dans ton oreille.
Il y a eu beaucoup de clash, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Heureusement qu'il y avait Jean-Louis qui était là pour temporiser un peu entre les deux et pour faire le médiateur. Parce que parfois, ça a été un peu compliqué avec Antoine, qui est un garçon adorable et qui faisait tout pour m'aider. Je sais qu'il a beaucoup d'admiration pour moi. J'adore ce garçon, il n'y a aucun doute là-dessus. Et Jean-Louis aussi, sincèrement, les trois, on a formé un beau trio, comme à la Bordelaise un peu, avec Zizou et Lisa. On a fait une émission quand même, on a réussi à rassembler pratiquement 800 000 téléspectateurs, auditeurs pardon, de moyenne sur 4 ans, ce qui est pas mal à 3. Donc c'était déjà pas mal, même s'il y avait les autres. Mais au départ, ça part de là. Je trouve que c'est pas mal et c'est une belle réussite.
Tu sais quoi, on va écouter la première. La première de Team Dugas, on est en septembre 2016, et tu dis bonjour.
RMC, 18h-20h, Team Dugas, Christophe Dugarry, Franck Leboeuf. C'est parti, bienvenue dans la team du gars. Très heureux d'être avec vous pour cette nouvelle aventure. De 18h à 20h, je serai avec vous entouré de ma team, Eric Dimeco, Franck Leboeuf, Manu Petit, Jérôme Roten et toi Jean-Louis. Salut.
Salut Christophe, poulet. Salut du gars, ça va?
Salut, ouais, ça va très bien.
Bon, et ben voilà, ravi de te retrouver.
Ravi également.
Et ravi de t'accompagner pour cette nouvelle émission, ce nouveau show sur RMC. Du lundi au jeudi, de 18h à 20h, Christophe Dugarry et donc sa team vous accompagnent.
Tu le trouves comment l'animateur?
Jean-Louis?
Non, toi.
Ah. C'est un métier, quoi. Enfin, j'ai arrêté l'école, j'ai fait ma dernière année de quatrième. Voilà, c'est un métier. Journaliste, c'est un métier. C'est compliqué, c'est... Je savais pas faire, j'ai jamais appris.
T'as peur de pas y arriver?
Bah oui. Bah oui, t'as forcément peur d'y arriver. Il y a des gens qui te font confiance, qui ont cru en toi, qui te donnent une tranche horaire. T'as pas envie de les décevoir. T'as pas envie de les décevoir. Donc oui, j'ai envie de faire de mon mieux.
Okay. T'as failli partir même?
Non, c'est pas mon style ça. Non, ça c'est pas mon style de partir. Je me demandais comment j'allais y arriver. J'avais besoin de soutien. Mais partir, non. Et à partir du moment où les gens se sont engagés, ont investi, je peux pas dire, au bout d'un an, deux ans, j'y arrive pas, je laisse la chaîne comment, dans quel état, la tranche horaire, c'est important, on m'a fait confiance, voilà, c'est à moi de m'améliorer, c'est à moi de progresser, c'est à moi de me détendre, c'est à moi d'aller voir un sophrologue s'il faut, j'en sais rien, mais non, je peux pas faire ça.
Et tu penses
par contre, je savais depuis le premier jour qu'au bout de quatre ans, j'arrêterai.
Et les autres, tu penses qu'ils étaient inquiets ou pas? Sur les premiers mois.
Les autres, c'est-à-dire?
Les autres, les patrons, François, Jean-Louis, Antoine?
Je crois pas. Je crois pas qu'ils étaient inquiets. Je sais pas. Je crois pas.
On va les écouter justement. Ouais.
Moi, je considère que c'est le meilleur. C'est le meilleur dans ce qu'il fait. Donc, à partir de là, moi, je suis là pour accompagner le meilleur. Donc, je suis prêt à accepter tout, à accepter toutes les concessions. Je suis prêt à faire des efforts. Je suis prêt à faire le sale boulot. Si je bosse pour le meilleur, il n'y a pas de souci. Comme je pense qu'il y a des joueurs qui étaient prêts à faire le sale boulot pour Zidane, ils n'étaient pas prêts à le faire pour d'autres après.
Je pense qu'il aurait fait n'importe quel métier, il aurait été bon. Quand tu as du génie en toi, quand tu as un talent inné comme lui, alors après, le travail, c'est autre chose. Mais quand tu as un tel talent dans n'importe quel domaine, il aurait réussi de toute manière. Il est tellement fort dans tout ce qu'il fait, que ça soit dans sa vie de footballeur, de consultant, même ailleurs, on le connaît un petit peu avec Jean-Louis en dehors. Il réussit tout parce que c'est quelqu'un de brillant. Donc non, quoi qu'il arrive, on savait que ça allait marcher, que ça allait le faire.
Ça a été quoi le déclic pour
c'est
que
gentil.
Ça marche?
Merci à eux pour ces gentils mots. Comment?
Ça a été quoi le déclic pour que ça marche justement? Parce que tu as été toi-même.
J'ai toujours été moi-même. Je sais pas faire différemment. Je sais pas faire autrement. Je sais pas, les gens ont adhéré. Non, mais le soutien de Jean-Louis et le soutien d'Antoine ont été très importants. Ils m'ont accompagné. Ça a été. Pourquoi ça a marché? Pourquoi une émission fait qu'elle marche ou pas? Je sais pas.
Tu parles avec le cœur, ça on le sait.
Après, j'ai
mais tu dis les choses franchement et tu les dis parfois assez brutalement.
Ouais. Ouais, c'est. Je sais pas les dire autrement, quoi. J'ai l'impression qu'on les comprend pas et qu'avec mes copains, c'est pareil. Ma famille, mes enfants, je dis les choses. Mais ça veut pas forcément dire la façon dont je le dis. Tu vois ce que ça veut dire? Des fois, c'est des mots parfois un peu durs et directs. Mais en vrai, je suis beaucoup moins. Ça veut beaucoup moins être tranchant, beaucoup moins être méchant, beaucoup moins être. Je suis pas un garçon méchant du tout. Mais des fois, la manière dont je le dis, ça peut paraître. Dur et méchant. Mais pourquoi ça a marché? Ça a marché, genre. J'ai voulu, par exemple, alors c'était aussi une question peut-être de moins travailler, mais pas tant que ça, j'ai fait confiance aussi. C'est-à-dire que Antoine et Jean-Louis sont du métier, c'est leur boulot, ils connaissent les sujets, les cils et là. À part quelques sujets de temps en temps où je voulais vraiment traiter, où j'étais inspiré, où je dis ça, il faut y aller, j'ai des choses à dire, j'ai envie de. Hein, je les ai laissés beaucoup faire sur les sujets. Je voulais pas leur dire on fait comme ça, et c'est ça, et c'est ça, et ça. Au bout d'un moment, quand je travaille avec une équipe, j'aimais aussi que cette équipe fasse son boulot. Chacun fait ce qu'il a à faire, quoi. Chacun sa partie. Ouais. Je suis pas là pour m'occuper du travail des autres. Et j'aime bien travailler comme ça. Ouais. Et je pense que ça a pu aider aussi. Si je m'étais mêlé de trucs, imagine si j'avais voulu imposer des choses. Je connais rien, moi. Je suis arrivé, j'aurais dit non, mais faut faire ça, ça aurait peut-être moins bien marché. C'est parce que je pense que chacun a su être à sa place dans ce trio et ça a bien fonctionné.
La boîte à souvenirs est chez Christophe Dugarry. Un autre papier avec toi, Dugas.
La langue plutôt que les doigts. Ah ouais. Heureusement.
Heureusement. Alors si ça ne vous parle pas, chers auditeurs, Duga a compris, nous sommes le 12 juin 98, France-Afrique du Sud, Stade Vélodrome, premier match de la Coupe du Monde pour les Bleus, et on joue la 34e minute.
Troisième corner depuis le début de la partie, rentrant, tête et but de Dugarry, superbe, et voilà Dugarry qui se signale comme il l'avait promis. Troisième but pour Dugarry avec l'équipe de France. On joue la 34e minute de jeu. L'équipe de France ouvre la marque. 1-0.
Et au moment où tu marques, on se souvient tous de cette image, évidemment, tu te retournes vers la tribune de presse, tu vas tirer la langue, mais tu as failli mettre les doigts.
Bah ouais. Heureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que petit ange m'a... Bah, rattraper les doigts, les mains pour fermer, pour mettre les pouces, ouais. Ah, j'aurais regretté toute ma vie. Ça serait terrible. Ça serait une tâche indélébile dans ma vie, dans ma carrière d'homme. Imagine cette image que tu revois régulièrement par rapport à mes enfants, par rapport à l'exemple, par rapport à tout un tas de choses, tu vois. Ça aurait été horrible. On parlerait que de ça et pas de mon but. Enfin voilà, ça aurait été horrible. Horrible.
Horrible. On va réécouter un extrait du fameux documentaire Les yeux dans les bleus, tourné durant cette Coupe du Monde 98, où justement tu exprimes ta rage.
De la joie et de la haine. De la haine, dans ma tête, tu te penses, tu te dis, putain, je vous ai tous niqué. Tu les vois en buste, parce que dans la tribune, tu vois tous ces putains de journalistes. Hein. Et je me dis, putain, vous êtes tous niqués. De la haine, tu vois. Envie de les mots, tu vois, quand t'es dans un état second, tu vois, t'es en transe, tu vois, t'es capable de faire n'importe quoi. Hein.
C'est exactement ça. Il y a de la haine, il y a de la colère, il y a un soulagement, mais la haine et la colère prend le dessus. Alors il y a les journalistes effectivement, mais il n'y a pas que les journalistes, parce que quand je rentre au bout de 20 minutes ou une demi-heure de jeu, il y a la moitié du stade qui siffle et qui dit « Ah non, pas lui !» Voilà, donc vous peut-être même un peu plus, j'en sais rien, mais donc oui, c'est une revanche, bien sûr.
Une revanche, tu es tellement désespéré à cette époque que quelques jours avant la Coupe du Monde, tu as écrit une lettre à une journaliste de l'équipe qui s'appelle Frédéric Galamès.
Ouais.
On est à l'aéroport d'Helsinki, après le match face à la Finlande, le 5 juin 98, dernier match de préparation des Bleus, et tu es tellement mal que tu vas lui faire passer une lettre pour expliquer qui tu es, chose assez rarissime. J'ai cette lettre sous les yeux, j'ai un extrait de cette lettre, je te propose de la lire et on en parle juste après. Ce sont tes mots évidemment écrits à cette journaliste.
Alors, vous avez écrit ce vendredi que je dois marquer plus de buts, mais j'aimerais d'abord que l'on me juge sur mes véritables qualités. Je ne suis absolument pas en concurrence avec des joueurs comme Trezeguet ou Guivarch. Même si l'on peut jouer tous les trois attaquants. Ce que je demande, c'est qu'on ne me juge pas sur un but marqué ou sur un but manqué. Que l'on juge Christophe Dugarry par rapport aux qualités de Christophe Dugarry et pas en rapport aux qualités d'un attaquant comme Trezeguet ou Guivarch que je ne suis pas. Je sais que je ne fais pas partie des meilleurs buteurs du mondial et je n'y vais pas pour finir meilleur buteur. Mais je sais ce que je fais et que je ferai partie des attaquants les plus empoisonnants pour mes défenseurs.
22 ans plus tard, quand tu lis tes mots, tu
ouais, j'avais besoin, j'étais pas bien avant cette Coupe du Monde, j'étais pas bien, j'avais besoin qu'on m'écoute, j'avais besoin de... Tu sais, j'avais des courriers, t'as toujours des fans qui t'écrivent, tu vois, je gardais une dizaine de lettres que je lisais de temps en temps pour me rassurer, tu vois, j'avais besoin de confiance, j'avais besoin qu'on croit en moi. Tu sais, quand on te répète tous les jours que t'es bidon, ou que t'entends tous les jours que t'es bidon, au bout d'un moment, tu finis par y croire, quoi. Donc, je doutais beaucoup, même si j'avais le soutien de mes partenaires, mais mes partenaires, leur soutien était entre guillemets... tu cherches toujours le soutien de ceux que tu n'as pas, aussi, mais... c'était normal, je savais qu'on avait une bonne relation, on s'entendait bien, je savais qu'il m'aimait, tu vois, qu'il y avait un peu d'amour aussi, donc c'était facile de me soutenir. C'était dur, c'était très dur.
Christophe, pourquoi tu étais ému en lisant cette lettre? C'est de te relire?
Ouais, c'est bizarre d'avoir fait cette démarche-là. C'est pourquoi je suis ému, parce que ça me fait rappeler que j'étais vraiment encore plus mal que ce que je suis en train de te dire. J'étais très très mal. Ouais, c'était très dur, très dur et je ne voyais pas comment, pour que j'écrive cette lettre, c'est que je me disais, mais comment je vais pouvoir jouer ce mondial? Comment je vais pouvoir mettre un pied sur le terrain sans me faire huer? Comment je vais pouvoir m'exprimer comment je vais pouvoir montrer que je mérite un peu d'être là, même pas mériter, j'avais aucune ambition particulière dans ce truc, juste laissez-moi, quand je vais avoir la chance de jouer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, j'en sais rien, laissez-moi la chance de m'exprimer, après vous me défoncerez, mais laissez-moi cette chance. Et surtout, une fois que tu as cette chance, une fois que tu as été sur le terrain, comment, quand tu es autant critiqué, assassiné, comment je peux ne pas avoir les jambes qui tremblent, quoi. Et je les ai eues, hein, je les ai eues, ça a été très dur. Hein. Non, non, ça a été un moment... Bon, je suis là aujourd'hui, c'est que c'était pas si mal que ça.
Ancien partenaire et copain de la radio, Franck Leboeuf se souvient justement de ce France-Afrique du Sud.
Par rapport au public, par rapport aux journalistes, il était pas mal décrié. Tout le monde se demandait ce qu'il faisait en équipe de France, si ce n'est parce que c'était le copain de Zizou. Enfin voilà, on était tombé très très bas. Je me rappelle que il y avait les guignols qui passaient et c'était toujours la marionnette de Zizou qui sautait la gueule de son copain du gars. Et voilà, on savait que c'est quelqu'un de sensible quand même. Donc quand il a marqué, on se doutait bien qu'il allait se moquer à son tour des gens qui étaient à la tribune et qu'il avait critiqué.
T'as failli quitter les Bleus avant la Coupe du Monde ou pas?
Oh non.
Quand tu es au point d'écrire cette lettre?
Oh non. Non, oh non, non, non. Non, j'abandonne pas. Hein. J'abandonne pas. Comme ça. Non, non, c'est trop facile. Non, non, je m'accroche. J'ai une chance, tu te rends compte. J'aurais regretté toute ma vie. Mais même quand je me blesse après l'Arabie Saoudite, Aimé Jacquet vient me voir, j'ai ce claquage important. Aimé Jacquet vient me voir, il me dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec nous ou tu rentres chez toi? J'ai 1% de chance de pouvoir rejouer. Aimé, il a peur que, comme je suis un déconneur, machin et tout, que je mette un peu le souk, que je dissipe mes coéquipiers à faire le con, machin, tout ça. Donc il s'est dit, bon, il va plus nous embêter qu'autre chose. Et je lui dis, non, mais je reste. J'aurais pu partir en vacances, me dire, je pars en vacances, je vais me soigner. Non, non, je dis, je reste. Je reste là, je vais avec mes coéquipiers, je vais soutenir, je vais m'accrocher, je vais essayer de jouer une minute la finale ou la demi-finale. Ah non, non, je lâche pas.
Pour revenir à ce match France-Afrique du Sud, est-ce que tu sais que ce but a changé la vie de quelqu'un aussi?
Un supporter?
Non. C'est même lui qui le dit. Ah. On va réécouter. Ton fils, Tom, qui n'est pas né. Il va naître 3 mois plus tard. Et pourtant, il nous dit ça sur ce match et sur ce but.
Forcément, moi, après, le match contre l'Afrique du Sud en 98 a forcément marqué ma vie à tout jamais. Alors, j'en ai pas de souvenir puisque je n'étais pas là, mais forcément que ça a eu un impact incroyable sur ma vie.
Il a raison.
C'est fou quand ça touche mes enfants. C'est fou. C'est fou. Je sais pas. Il a raison, oui, ça a changé sa vie parce qu'on lui en parle tous les jours. Après, j'espère que ça a changé sa vie en bien et que ça a été très dur pour lui au début. Par exemple, les réseaux sociaux, il essayait de s'exprimer, il essayait de répondre aux gens, à la méchanceté des gens et tout ça. Bon, il a vite abandonné, il a vite compris, je lui ai expliqué, je lui ai beaucoup parlé par rapport à ça. Le fait que moi, je ne sois pas sensible aux réseaux sociaux, à ces gens et tout ça, et puis il voit ma réaction dans les lieux publics, avec les gens, il voit bien que les choses se passent toujours, souvent, toujours, pratiquement très bien. Et il faut faire abstraction de ça, mais j'aurais aimé qu'il me voie jouer. Mais par contre, c'est vrai que ça n'a pas dû être facile à vivre pour lui qui adore le foot. Pour le deuxième, pour le petit, qui a 2 ans de moins, c'était plus facile parce que lui, il s'en fiche totalement. Tu vois, il n'est pas dans le foot, il est dans le rugby, ça. Ça l'a touché un peu, mais beaucoup moins que Tom, qui est en plus beaucoup plus sensible, et son père, c'est son père, quoi.
On va donc Exactement. Passer à autre chose, on va redescendre en température. La boîte à souvenirs, c'est terminé, mais Christophe, tu vas encore devoir faire quelque chose, encore travailler un petit peu, car nous allons maintenant sortir de la boîte.
RMC, la boîte à souvenirs.
La sortie de boîte.
Il y a des personnes de ton entourage qui ont évidemment décidé de te laisser un petit message, voire te poser une question. On va débuter avec Christophe Joss, commentateur à tes côtés à M6 puis à Canal+.
J'aurais plein de questions à lui poser. J'aimerais savoir si un jour il aura la patience que j'ai pu avoir avec lui parfois pour me donner des conseils de golf, parce que j'ai cru comprendre que maintenant il exerçait beaucoup ses talents à jouer au golf.
Fouillard, ça le fait rire.
T'auras la patience de lui apprendre ou pas?
Avec plaisir. J'aime beaucoup Christophe. J'aime beaucoup Christophe. Et voilà, il a été d'une grande aide pour moi. J'aime beaucoup et je l'expliquerai à jouer au golf. Ouais, j'adore. Ben, après, je ne joue pas suffisamment bien pour me transformer en professeur.
Si. Tu joues très bien, Christophe.
Mais oui, j'aime beaucoup Christophe. Ouais, ouais. Avec plaisir.
Tu préfères Christophe ou le golf?
Le golf.
Je comprends parce que le golf c'est tous les jours et Christophe Jean c'est pas tous les jours.
Je pourrais me passer de Christophe, même si je l'aime beaucoup, je pourrais pas me passer du golf.
Autre message maintenant, le producteur de l'émission Team Duga, Antoine Barnier, l'homme qui murmure à l'oreille de Duga.
Je pense que ça a été comme un grand frère et c'est quelqu'un, après moi le joueur je l'ai toujours admiré, mais l'homme encore plus parce que c'est un homme bon, déjà qui est honnête, qui est franc, il met pas de distance et en plus tu sens qu'il t'aime, tu vois. Donc moi je l'ai aimé parce que c'est une personne avec qui je travaille pendant 4 ans, je l'ai considéré comme un grand frère et c'est vrai que bon, ça me rend triste parce que j'aurais aimé continuer, j'aurais aimé qu'il me paye mon crédit encore un peu plus longtemps. Après il s'en va mais je sais qu'il va beaucoup me manquer. Je n'avais pas peur de le dire, je lui ai dit la semaine dernière. Mais je pense quand même que je vais beaucoup lui manquer. Donc la question, ce serait ça. Est-ce que je vais lui manquer? Peut-être qu'il dira non, mais je pense s'il est un peu franc, il dira oui.
Mais bien sûr qu'il va me manquer. Bien sûr que lui et Jean-Louis vont me manquer, même si on s'est parfois aussi agacé. Mais ça, c'est le boulot qui veut ça, parce qu'on voulait que ça marche du mieux possible. Et on va aller au bout des choses et on a des responsabilités. Antoine aussi, Jean-Louis, voilà, c'est... Pour moi, c'est des jeunes hommes, c'est des petits frères, mais... Ils sont forts, ils sont solides, ils sont costauds, ils voulaient faire du mieux possible, ils ont voulu m'accompagner. Donc oui, bien sûr qu'ils vont manquer. Bien sûr qu'ils vont manquer, mais je sais que je les reverrai, je sais qu'on aura l'occasion de partager des moments aussi. Et puis en dehors du foot, en dehors d'RMC, même si on n'en a pas fait beaucoup, 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 énormément, on se découvrira encore plus. Ouais, voilà, mais c'est, ils vont manquer. Ouais, c'est l'histoire de ma vie pendant 4 ans, c'est pas rien. On ne peut pas comme ça effacer tout ça d'un revers de main.
Le papa, la maman, Christian et Michel avaient aussi quelque chose à te dire. On les écoute.
Christophe, je suis très fier de toi et de ta carrière. Ta maman et moi, nous sommes très fiers de ta réussite. J'espère que ça va continuer dans ta vie future.
Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise à part que je l'aime? Je l'aime et il fait partie un tiers de ma vie, quoi. Hein, j'ai 3 garçons. Je vis qu'à travers eux, quoi. Hein. Avec leurs défauts et leurs qualités. Voilà. C'est les paroles d'une maman qui aime ses enfants.
C'est facile ou pas d'être papa et maman de Christophe Dugarry?
Non. Non, non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que... Alors, c'est pas facile parce que j'ai mon caractère, mais par contre, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi et que je serai toujours là pour eux et que je l'ai toujours été. Et ils le savent, ils le ressentent. Je suis beaucoup moins, mes frères aussi, ils ont leur caractère aussi. Hein. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je suis le plus proche de mes parents, même si je me suis éloigné de par ma carrière et tout ça. Et c'est important, moi, surtout, c'est important de faire le bien autour de moi, des gens que j'aime et tout ça, donc je me sens concerné. Ouais.
Ouais, et puis tu vas déjeuner souvent chez eux, et notamment dans deux jours,
souvent.
Je crois.
Ouais, très souvent.
Exactement. Alain Giresse a quelque chose à te demander, enfin plutôt un petit reproche à te faire, on l'écoute.
De toute façon, il a une grande responsabilité. Si, quand il était ramasseur de balles du match Bordeaux-Juventus, il s'était un peu plus pressé, il avait fait preuve d'un peu plus de dynamisme pour ramasser le ballon, on se serait qualifié.
Demi-finale de la Ligue des Champions 85, Bordeaux-Juve.
J'étais ramasseur de balles, ouais. J'adore Alain Giresse, j'adorais. C'est quel joueur incroyable, ce petit-là. Ce qu'il arrivait à faire, et puis c'est mon époque, c'est mes premiers grands souvenirs, ce Bordeaux-Juventus. C'est des souvenirs extraordinaires. Ouais. Ouais. C'est génial.
Pierrot Labatte maintenant, ton formateur. Ton deuxième papa au Girondin de Bordeaux.
Ouais, il a compté beaucoup.
Christophe, je n'ai pas un message particulier à te dire. Sinon, reste tel que tu es. Essaie d'être un peu plus calme, moins critiqué, parce que des fois, ta parole va au-delà de ta pensée. Mais reste sur ta pensée et ce que tu penses être vrai, comme tu sais le faire notamment, ou comme tu savais le faire quand il s'agissait de réaliser physiquement certains gestes techniques. Essaie de le faire pareil avec la parole.
Il a raison, il a tellement raison. C'est vrai que ma parole va souvent dépasse ma pensée. Après, voilà, je suis animé de ce truc, quoi, de cette passion, de cette boule dans le ventre qui fait que quand voilà, s'il y a quelque chose qui me plaît, qui voilà, je donne tout quoi. Je donne tout, je mets tout et mais c'est vrai que des fois ça a dû en saouler quelques-uns, ouais, je peux les comprendre. Ouais. Ouais.
Roland Courbis maintenant, ton entraîneur à Bordeaux, on l'a bien compris, à Marseille également, il avait un petit message et une question pour toi.
Christophe, je savais et je pouvais deviner que tu ne ferais pas dans l'après-football entraîneur. Par contre, est-ce que tu avais pensé faire une carrière de consultant et une carrière aussi brillante? Allez, sans fausse modestie, je t'ai vu chez Canal+, je t'ai vu chez nous, donc cette carrière, elle est quand même brillante et je te mets dans la catégorie des consultants de haut niveau. Est-ce que tu l'avais prévu, ça, est-ce que tu l'avais pensé ou est-ce que tu as été étonné?
Très étonné. Très étonné. Non, non, j'avais prévu, quand j'arrêterai le foot, d'aller faire le tour du monde, de profiter de ma vie, de ma famille. Non, non, j'avais pas du tout pensé à ça. J'étais moi-même surpris que ça puisse marcher, que ça puisse me convenir, que ça puisse me plaire. Mais après, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé à Canal, à M6 d'abord. M6, ce mois, la Coupe du Monde 2006, c'était génial avec Christophe Joss, avec les patrons d'M6. Tout ça. Ça a été super. Il y a eu quelque chose, une aventure. C'était bonnard. Canal+, c'était top. Sincèrement, Canal+, j'ai adoré les gens de Canal, la façon dont ils traitaient les consultants, les matchs, les émissions. C'était passionnant, c'était intéressant. Et c'est du haut niveau, quoi, du journalisme et tout ça. Enfin, moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super. Et puis RMC, c'est 4 ans aussi. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'être bien entouré. J'ai pas été faire un boulot de merde, quoi. J'ai eu mon émission. J'ai eu une chance. J'étais bien fourni, quoi. Donc je m'attendais pas du tout à ça. À avoir cette chance de pouvoir choisir. C'est un luxe, c'est incroyable d'être bien payé et de pouvoir choisir. C'était énorme. Je suis un garçon très chanceux.
On va écouter Franck Leboeuf maintenant.
Je trouve que c'est quelqu'un qui se dénigre pas mal tout seul. Et je lui ai dit souvent en off, arrête de te dénigrer parce que moi je trouve que c'est pas juste envers toi parce que je sais la carrière que tu as eue et le talent que tu avais. Voilà, je lui souhaite une bonne retraite puisqu'il a décidé de prendre sa retraite. Je pense qu'il va bien se faire chier. Je pense que dans 2-3 ans on peut le revoir. Mais comme ces grands joueurs qui sont partis ou ces grands, je sais pas, acteurs qui ont décidé d'arrêter, et voilà, et bah il reviendra parce que je pense qu'il aime le foot. Je pense qu'il a le foot dans le sang. C'est un passionné et qu'il aura envie d'avoir son mot à dire.
Je pense pas. J'aime beaucoup Franck. Franck, c'est mon copain. Je l'aime beaucoup, Franck. Je pense pas que je me dénigre. Je pense que je suis lucide. Alors, il y a des critiques parce que ma carrière, parce que mes choix méritent des critiques. Franck, il me le dit. C'est vrai qu'il me l'a dit souvent. Mais il te dénigre pas, te rabaisse pas trop. J'ai pas de problème avec ce que j'ai raté. J'ai pas de... pas tout réussir, j'ai fait des erreurs, j'avais pas la compétence de ne pas les faire, j'avais pas...
Oui, mais il faut mettre en lumière aussi ce qui a marché.
Oui. Après, je suis moins dans ça, ça m'intéresse moins. Je pense que c'est ce que j'ai fait de mal qui me rendra meilleur, pas ce que je fais de bien. Donc voilà, et mon Francky, même si un jour je m'ennuie, je reviendrai pas dans les médias parce que je m'ennuie. Je reviendrai dans les médias, peut-être un jour, ou autre chose, parce que j'en ai profondément envie et que ça me manque. Mais pas l'ennui. L'ennui, c'est un mot que je connais pas. Alors, l'ennui, moi, je m'ennuie jamais. Tu peux me laisser 4 heures ou 5 heures dans un endroit, je ne m'ennuie jamais. Donc, voilà.
Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, tu l'imagines revenir?
Pas du tout. Alors là, pour le coup, pas du tout. Et je me suis toujours fixé des objectifs. Ma vie, j'aime bien me fixer des challenges, des objectifs, des projets. Et je touche du bois. Pour l'instant, je les ai toujours respectés. Et dans mes projets à venir, je n'ai pas le projet de revenir dans le football, dans les médias ou quoi, non.
Projet de faire le tour du monde, si j'ai bien compris. Exactement. De profiter des copains et de jouer au golf.
Exactement, t'as tout compris. 48 ans. C'est l'âge, c'est le bon âge pour ça. Faut savoir lâcher, même si j'ai une émission qui marche, qui est bien payée. Faut savoir lâcher, il n'y a pas que ça dans la vie, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a des choses à partager, des choses à vivre. Le monde dans lequel on vit, je pense qu'il y a des choses à découvrir qui sont beaucoup plus enrichissantes. Voilà, que de continuer à faire des médias, du foot, il n'y a pas que ça dans la vie.
Ouais, et que de côtoyer Jean-Louis Tour, je te comprends, on va justement l'écouter. Il a deux questions, tu sais, il est gourmand forcément. La première.
Au début de Team Duga, je crois dans les premières semaines où tu découvrais un peu toute cette ambiance et toute cette pression qu'on te mettait, tu me disais je comprends pas pourquoi moi, pourquoi on m'a choisi moi comme consultant star sur RMC alors qu'il y en a plein d'autres des anciens joueurs. Donc moi la question que je voulais te poser c'est est-ce que 4 ans après t'as compris pourquoi t'étais le meilleur et pourquoi tu faisais la différence par rapport aux autres.
Toi qui aimes parler des choses alors, positives.
S'il faut être totalement objectif. Je me suis trouvé, puisque tu veux qu'on sorte du positif, je me suis trouvé bon cette année, et parce que ça m'est arrivé encore de m'énerver, mais beaucoup plus calme, beaucoup plus la formule de cette année m'allait bien, avec plus de monde autour de la table et tout, j'ai trouvé ça vraiment bien, je me suis trouvé bon. Les fois d'avant, les années précédentes, les deux premières années, je me suis pas trouvé exceptionnel pour tout te dire. Voilà, loin de là. Un peu mieux la troisième et bien la quatrième. Je suis différent des autres. Voilà. Après, te dire que... Est-ce qu'être différent, ça me rend meilleur? Je sais pas. Pour la radio, peut-être. Après, je crois qu'on saura si j'étais bon sur ceux qui passeront après et s'ils arriveront à faire aussi bien. C'est comme ça qu'on voit les trucs. Mais est-ce que c'est vraiment important? Je pense que... Alors après, je sais que c'est l'audience qui compte, c'est l'audimat qui compte. Le principal, c'est de faire une bonne émission. Et à partir du moment où les gens qui la font ont le ressentiment et que ceux qui l'écoutent ont le ressentiment que c'est une bonne émission, bon, c'est ce qui compte.
Deuxième question, moins sérieuse, de Jean-Louis Tour.
Tu me contrediras pas, t'es pas très matérialiste, hein. On le voit sur le look quand tu vas faire les émissions, hein,
le bon, salaud.
C'est pareil. Mais donc, est-ce que pour quelqu'un qui n'est pas matérialiste, ça a été sympa de passer 4 ans à conduire 2 Ferrari?
Ce boulard.
Et c'est ce que m'avait dit François Pesanti. François Pesanti m'a dit, je vais te mettre avec 2 Ferrari. Et Jean-Louis et Antoine. Oui, ça a été bien. Sincèrement, ça a été très bien. Ça a été très bien. Ils ont été super. Ils ont été là. Et comme Jean-Louis le disait tout à l'heure, ils ont été à ma disposition. Ils ont essayé, alors par moments maladroitement, mais ça a toujours été de bonnes intentions qu'ils ont eues envers moi. Toujours, systématiquement, même si des fois, je me suis attrapé avec Antoine, un peu moins avec Jean-Louis. Mais il y a toujours eu des bonnes intentions que je n'ai pas toujours compris. Ou qu'eux n'ont pas compris parce que forcément on ne se connaissait pas, ils ont une image du gars, moi aussi une image d'eux, une image de la chaîne aussi, où des fois j'avais perdu un peu confiance, tu vois, je me disais bon, il me pousse pour avoir le buzz, alors que c'était pas toujours tout le temps, c'était pas ça. C'était, il y avait beaucoup de bienveillance pour essayer de m'améliorer, des fois je comprenais pas toujours de me mettre cette pression ou sous pression. Donc par moments ça a été un peu compliqué, mais ça a été super et je me rends compte vraiment j'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs. Ça m'a beaucoup apporté dans ma carrière. Et là, je sais que j'ai eu la chance de travailler avec deux grands journalistes. Antoine, il est journaliste, Antoine ?
Oui.
Ouais. Avec deux grands journalistes, même si ce n'est pas le même job. Deux grands journalistes. Voilà, je sais qu'ils savent super bien faire leur job. Ils sont au top. Sincèrement, c'était super.
Dans la boîte à souvenirs avec Christophe Dugarry, nous allons maintenant écouter un message de Tom, ton fils aîné.
Salut papa, écoute, c'était un étude, j'étais devant l'émission avec RMC pour te faire une petite surprise. J'en profite aussi pour te laisser un petit message. Voilà, c'était pour te dire que j'étais très cher de toi, que ce soit ta carrière de joueur, dont je suis totalement admiratif de tout ce que tu as réussi, de l'après aussi, parce que je connais un petit peu les coulisses forcément, et je sais que tu as galéré, que tu as travaillé pour que tout se passe pour le mieux, que tu as fait les choses avec cœur, avec dévouement. Voilà, j'admire tout ça, toute ta carrière, toute ton œuvre, on va dire. Et en plus, ce caractère que tu t'es forgé, cette envie de réussir et à la fois de dire ce que tu penses et tout, je suis très fier de ça, très admiratif de ça. Je suis content parce que je me rends compte avec le temps que je te ressens de plus en plus. Donc, j'en suis très fier et je suis très fier d'avoir un papa comme ça.
Qu'est-ce que je disais? Oui, il me ressemble de plus en plus. En meilleur, il sera bien meilleur que moi, mais ça me fait plaisir qu'il reconnaisse les qualités de son papa, parce que je suis comme tous les papas, je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait, les parents ont fait de notre mieux, j'essaie de faire de mon mieux. Et voilà, j'ai la chance d'avoir deux enfants qui sont à l'écoute, j'ai la chance d'avoir deux enfants qui sont gentils, qui ont bon fond, qui n'ont pas de vis, qui ne sont pas tordus. Mais tu sais, par moments, tu sais, tu as envie de les protéger, mais tu as aussi envie qu'ils montrent leur personnalité. C'est important d'avoir la personnalité, c'est important d'avoir du caractère, tu vois. J'aurais pas aimé... avoir un enfant entre guillemets presque trop sage, tu vois. Il faut montrer du caractère, il faut montrer ce que voilà. Et je, alors après, c'est aussi grâce à leur maman, il faut être totalement honnête. Leur maman était une maman exemplaire, a fait tout ce qu'il fallait pour eux. Voilà, on s'est parfaitement complété sur l'éducation de nos enfants. Et aujourd'hui, c'est des bons gars. On peut compter sur eux. Et je suis fier de les avoir comme enfants. Je les échangerai contre rien au monde.
Alors, dans cette émission, on a beaucoup entendu Tom, le fils aîné.
Ouais.
Et on n'a pas encore entendu Louis.
Louis l'a fait, il a parlé.
Et oui, il a parlé.
Non, alors ça, c'est
il
rare.
Il n'aime pas trop le foot. Mais il tenait à te laisser un message à son papa.
Mon père voulait te dire que je t'aimais fort, que j'admirais tout ce que tu as fait, que moi, ta carrière, je trouve qu'elle est magnifique. Et voilà, je t'aime plus que tout. Merci d'être là pour moi, de m'écouter, de me suivre dans mes choix, de toujours être là pour moi. Voilà, je t'aime plus que tout.
C'est fou, dès que ça touche mes enfants, c'est... tellement important pour moi d'essayer d'être le meilleur papa possible.
T'as réussi visiblement.
Ouais.
Quand on entend ces
J'espère.
messages.
Comment?
Quand on entend ces messages.
Ouais, je suis content. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir.
Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous, de nous avoir accueillis chez toi. On parlait beaucoup de
Merci à toi,
l'homme
JC.
Sincère, franc que tu es. Et c'est vrai que je t'ai proposé de venir chez toi et pas une seule seconde. On se connaît pas beaucoup, hein, et tu m'as dit, mais avec grand plaisir, je t'accueille chez moi. Viens. Et donc, ça m'a beaucoup touché. Et on s'est pas beaucoup côtoyé RMC, mais j'ai pris beaucoup de plaisir,
merci,
en tout cas,
c'est
d'être un
gentil,
petit
moi
peu
aussi.
Avec toi. Un grand merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Pierre Amiche, le producteur. Adrien Paré à la réalisation. Nicolas Paul Orsi, Samia Hani, Benjamin Bouchard et Nicolas Flon. Tu as débuté cette émission, Christophe. Tu vas pouvoir la clore. Je te laisse t'adresser aux auditeurs qui ont eu le plaisir de t'écouter durant de nombreuses années. Et dans cette émission, la boîte à souvenirs. Merci encore, Christophe. Je te laisse le micro.
Déjà, je voudrais m'excuser auprès des supporters, n'importe quoi, auprès des auditeurs à qui j'ai cassé les oreilles trop souvent. J'aurais pu dire certaines choses sans autant m'emporter, sans autant m'énerver. Même moi, ça m'a agacé. Donc voilà, merci à eux de m'avoir suivi, merci à eux de m'avoir écouté, d'avoir cru en moi. Parfois, ça partait un peu en saucisse. C'était pas mes meilleurs moments, c'est pas les moments que j'ai préférés. Mais bon, après c'est plus fort que moi, hein. Je parle avec toute ma passion. Mais voilà, merci. Merci pour eux, ça a été important pour moi d'avoir le retour des auditeurs, de faire quelque chose qui fonctionne, qui marche, c'est hyper valorisant, j'en suis très fier. Et voilà, merci à RMC de m'avoir donné cette chance de faire cette émission. Tous ceux qui ont cru en moi, Canal+, M6 aussi bien sûr. RMC, SFR, ça a été voilà. Tout cette après-carrière est toujours difficile pour un footballeur, tu sais, l'après-carrière, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. Et ma reconversion a réussi grâce à tous ces gens-là, aux auditeurs, voilà, qui ont pris la peine de m'écouter, même si des fois je criais trop fort. Et c'était cool. Merci à eux.
RMC, 13h-14h.
La boîte à souvenirs.